Sur ce, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu,
dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24.
Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « La semaine après Pâques ». Et oui, « La semaine après Pâques », voilà. Et pendant que vous tournez, bien, j'aimerais parler ce matin de ce qui s'est passé pendant la semaine de Pâques. Et au chapitre 24, eh bien, Luc nous révèle certains faits qui nous enseigne de grandes choses concernant cet amour brûlant, flamboyant et passionnant pour Jésus-Christ. Et ce passage, eh bien, nous apprend justement comment avoir cet amour passionnant et débordant pour Jésus. Et mon désir, c'est que nous puissions avoir cet amour passionné pour Jésus-Christ. Ce matin, à travers les cantiques que Michael a choisis, eh bien, ça nous rappelait aussi qu'on est des sentinelles, qu'on aura des comptes à rendre par rapport à la mission à laquelle Dieu nous a appelés, de pouvoir partager justement cet amour qu'on a reçu, et aussi proclamer l'Évangile de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. J'aimerais regarder ici rapidement le contexte. Eh bien, le contexte ici, c'est que Jésus avait été crucifié, il a été mis dans un tombeau, il était sorti du tombeau, il avait été vu par quelques femmes, mais certains disciples n'étaient pas certains qu'il était vraiment ressuscité, tandis que d'autres étaient convaincus à moitié qu'il l'était, d'autres doutaient à moitié qu'il l'était. Eh bien, parmi eux, on retrouve deux de ses disciples, qu'on appelle régulièrement les disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est parce que j'avais un verset en tête, je voulais vous montrer tout de suite en commençant. On verra plus tard. Parmi eux, nous retrouvons deux de ses disciples qui avaient décidé ce même jour. Donc, c'est pas 4-5 jours après la mort de Jésus, c'est pas 2 mois, 1 mois après, le matin même, que les femmes vont dire aux disciples et aux apôtres que Jésus est ressuscité, que deux anges les ont avertis que Jésus était ressuscité. Le texte biblique nous dit ici que deux des disciples de Jésus ont décidé ce même jour de se rendre à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres, là où Jésus avait été crucifié, enseveli et était ressuscité. Et le verset 14 nous dit, ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Ils étaient découragés et accablés. Et ce matin, on va lire les versets 15 à 27. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Dieu les empêchait de voir, et nous verrons un peu plus tard dans le message, pourquoi Dieu empêchait les disciples de voir Jésus tel qu'il était ce jour-là. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour que vous soyez aussi tristes? » Et l'un des deux disciples, qui s'appelait Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui habite à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits, c'est-à-dire ils font référence au vendredi. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voulons te remercier ce matin. À travers les chants, nous nous sommes rappelés, Seigneur, cette grande victoire que Jésus a remportée sur la mort, sur le malin, sur le monde et sur le péché. Merci Seigneur pour cette victoire qui nous rappelle qu'un jour aussi, comme tu as ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, tu nous ramèneras aussi un jour de la mort à la vie. Non pas pour subir un jugement, mais pour vraiment entrer dans ta gloire et pour participer à tout ce que tu es en train de nous préparer, et ce pour l'éternité. Et Seigneur, tu vas maintenant monter au ciel, on va célébrer cette journée, au mois de mai, mais nous savons aussi qu'un jour tu reviendras. Et nous voulons être prêts, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être prêts, comme des sentinelles. Et Seigneur, qui gardons les yeux fixés vers le haut, parce que c'est du ciel que tu viendras et que tu nous prendras avec toi. Seigneur, bénis ta parole ce matin, qu'elle puisse être un sujet pour nous fortifier, nous encourager, nous exhorter à continuer à aller de l'avant et à persévérer sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que je te le demande, Père. Amen. Alors ici, ce matin, nous sommes en présence de deux disciples de Jésus qui discutent ensemble sur cette route qui mène à Emmaüs. Et ils se rappelant entre eux, eh bien, ce que les femmes avaient raconté, que des anges leur avaient dit que Jésus était vivant. Mais ils étaient tellement découragés que Jésus était mort qu'on pouvait voir sur leur visage jusqu'à quel point ils étaient tristes. D'où vient ce découragement et d'où vient cette tristesse? Ils proviennent d'un malentendu, d'une méprise. Et j'aimerais simplement m'arrêter quelques minutes sur ce point ce matin. Parce que ce malentendu va provoquer une grande déception qui va les amener à douter. Et le fait de douter va les conduire au découragement. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas bien compris? Eh bien, le texte biblique nous l'enseigne, c'est pas moi qui vais vous le dire ce matin, le verset 21. Ils attendaient un Messie politique. Ils avaient espéré que lorsque Jésus viendrait, il libérerait Israël, et ce n'est pas ce qui est arrivé. Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Frères et sœurs, il est évident qu'ils attendaient un Messie qui les délivrerait politiquement du joug de Rome. Il est évident qu'ils attendaient un roi puissant, quelqu'un qui était capable d'affronter les Romains. Qu'était-il arrivé maintenant à ce roi? Eh bien, comme sceptre, comme un bâton qui manifestait son autorité, c'était les clous qu'il avait dans ses mains. Son trône, c'était la croix, le jour du calvaire. La grandeur de son royaume, eh bien, se limitait à la superficie de son tombeau. Qu'est-il arrivé à son royaume? Pourtant, les prophètes avaient prophétisé concernant ce royaume. Les anges avaient annoncé la venue de son royaume. Et Jésus avait prêché ce royaume. Et voilà que ses disciples sont en train de dire à Jésus, « Nous espérions tant que ce Messie délivrerait Israël, et cela n'est pas arrivé. » Qu'était-il donc arrivé à ses deux disciples pour qu'ils soient aussi affectés? Frères et sœurs, ils ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Ils connaissaient seulement une partie de l'histoire et ils n'avaient pas compris que Jésus avait échangé son calvaire avec Pâques et que la Pentecôte serait le début visible du royaume de Jésus-Christ qu'il avait prêché. Ils n'avaient pas encore compris, comme il nous arrive toujours de ne pas nécessairement comprendre, que lorsque nous nous retrouvons dans notre propre jardin de Gethsémané et que nous vivons le calvaire, Dieu s'apprête à transformer nos souffrances et nos larmes en sujets de louange. Nous connaissons seulement une partie de l'histoire. Le pasteur Adrian Rogers, qui est décédé en 2006, raconte que lorsqu'il était tout jeune, il était entré un jour dans la cuisine au moment où sa mère préparait un fond de tarte. Alors, il dit, j'étais tellement jeune, j'avais pas encore commencé l'école. Il dit, je savais que ce n'était qu'un fond de tarte et j'étais trop petit pour voir ce qu'elle était en train de faire. Et lorsqu'elle quitta la cuisine, je fus déçu, j'étais en colère. J'ai regardé ce fond de tarte, il n'y avait aucune garniture à l'intérieur de celui-ci. J'ai pensé que ma mère était sans pitié ou qu'elle avait perdu la tête. Comment une mère pouvait-elle faire cuire un fond de tarte sans rien donner à son fils? Alors je suis sorti de la maison, j'ai couru environ 100 mètres, murmurant à moi-même toutes sortes de choses sur ma mère, avant de me repentir au bout de 5 minutes et de revenir à la maison. J'ai ensuite appris la suite de l'histoire. Elle avait laissé refroidir le fond de tarte pour ensuite le terminer un peu plus tard. Quelle belle tarte elle nous a servie au souper. Ses disciples, frères et sœurs, ils étaient dans le même état d'esprit. Ils n'avaient pas encore compris la suite de l'histoire. Ils n'avaient pas compris qu'à Golgotha, ce n'était que le début de l'histoire et que Jésus n'avait pas encore terminé. Ils étaient donc tristes parce que leur tristesse était due à un malentendu de leur part et aussi à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi Jésus va leur dire au verset 25 ici, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à comprendre tout ce que les prophètes ont annoncé. » Ils croyaient seulement une partie de ce que les prophètes avaient annoncé et non pas tout ce que les prophètes avaient prophétisé. Ils ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. Ils étaient confus. Et cela les avait amenés au découragement. Lorsque nous sommes confus, lorsque nous ne comprenons pas toujours la parole de Dieu, cela peut nous conduire au découragement. J'ai rencontré dans mon ministère pastoral tellement de chrétiens qui étaient découragés parce qu'ils étaient confus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures et parce qu'ils ne croyaient pas tout ce que les prophètes avaient annoncé. Prenons quelques instants maintenant pour parler du réveil qui se produit dans le cœur de quelqu'un qui connaît la suite de l'histoire. Jésus les a rencontrés et les a renseignés sur la parole de Dieu. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur Jésus d'avoir agi ainsi. Je vous invite à regarder ensemble comment il a fait. À partir du verset 15. « Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha. » Frères et sœurs, la première chose que Jésus va faire, il va s'approcher. Et on peut dire en tant que chrétien que c'est pas nous qui nous sommes approchés du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui s'est approché de nous. C'est lui qui a permis qu'on entende l'Évangile. Il l'a fait tellement de fois avec moi, il l'a fait tellement de fois avec vous. Et Jésus, nous dit le texte, va lui-même s'approcher d'eux. Il n'a pas cherché à les reprendre, il n'a pas cherché à les condamner, il a cherché à les convaincre avec la parole et il les a fortifiés dans leur foi. Tout comme il l'a fait avec moi souvent, tout comme il l'a fait avec nous, lorsqu'il nous a vus alors que nous étions perdus, découragés, tristes, et que nous ne le cherchions même pas. Et si nous l'aimons aujourd'hui, la parole nous dit que c'est parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Il s'est approché d'eux, nous dit le texte dans l'Évangile de Luc. Deuxièmement, il va faire route avec eux. Et moi, ça m'encourage aujourd'hui. Parce que Jésus, avant de partir, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il a dit, « Sachez-le, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » De la même façon qu'il s'est approché de ses disciples, de la même façon qu'il a fait route avec lui, j'espère que ce matin, vous avez la certitude dans votre cœur que Christ est non seulement proche de vous, mais si vous êtes né de nouveau, qu'il habite en vous et qu'il vous accompagne jour après jour parce que c'est une promesse qu'il a faite. Vous êtes amen à ça? Ces deux hommes étaient des croyants, c'était des disciples de Jésus, nous dit le texte, mais ils étaient découragés. Et Jésus a voulu aller à leur rencontre pour leur raconter la fin de l'histoire qui avait commencé au calvaire. Il va faire route avec eux, et encore une fois, je le dis, je suis heureux qu'il ait agi ainsi. Et il en est de même avec nous lorsque nous sommes découragés ou confus suite à un malentendu ou à une mauvaise compréhension de notre part et que nous sommes portés à nous éloigner du Seigneur. Jésus s'approche alors de nous et il fait route avec nous. Gloire à Dieu pour cela. Il est fidèle. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Il va faire une autre chose. Verset 17. Il s'approche d'eux, il marche avec eux et il va leur parler, nous dit le texte. Le Seigneur, il s'approche pas de nous, simplement se croiser les bras, nous regarder, porter un jugement. Il fait pas seulement route avec nous, simplement pour nous reprocher à chaque fois qu'on tombe. Le Seigneur, ici, il va leur parler. Comme il veut vous parler à vous ce matin, comme il veut me parler à moi, comme il veut vous parler à tous les jours dans votre vie. Et comment il va leur parler, frères et sœurs? Il va ouvrir les Écritures. Et Dieu n'a pas changé de méthode aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique qui l'a dit. Il va leur ouvrir les Écritures. Et remarquez ce que le Jésus va faire pour eux. Il utilise les Écritures. Comment il va le faire? Il va commencer par les écrits de Moïse et il va continuer par tous les prophètes. Il va leur expliquer tout ce qui le concernait. Ensuite, lorsqu'ils sont près du village où ils sont près du village d'Emmaüs, ils paraissaient vouloir aller plus loin, mais ils vont le retenir en insistant, en disant, écoute, reste avec nous car le soir approche et la nuit va bientôt tomber. Alors Jésus accepte et il rentre là où ils vont manger ensemble. Et pendant qu'il était avec eux, versets 28 à 30, il prit le pain après avoir prononcé la prière de bénédiction. Le texte nous dit, il le rompit et leur donna. Remarquez maintenant ce qui est écrit au verset 31. Jésus est en présence de deux disciples qui sont découragés, qui sont attristés, qui ne connaissent pas la fin de l'histoire. Première chose, ils s'approchent d'eux. Deuxièmement, il fait route avec eux. Troisièmement, il leur parle. Il leur parle à travers les Écritures. Il leur ouvre les Écritures. Pourquoi? Afin que leurs yeux puissent s'ouvrir. C'est ce que le texte nous dit. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Remarquez dans un deuxième temps, verset 32, ce que les deux disciples vont dire lorsque Jésus leur expliquait les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures? Frères et sœurs, une des questions qu'on peut se poser ce matin, lorsque nous lisons les Écritures, est-ce que notre cœur brûle? Parce qu'on a la certitude que Dieu est en train de nous parler. parce qu'on a la certitude que Dieu veut nous édifier, veut nous fortifier, veut nous encourager. Il nous rappelle que le Christ crucifié est aussi ressuscité. Notre cœur brûle-t-il? Quel changement! Lorsque Jésus leur a ouvert les Écritures, qu'il leur a permis de leur ouvrir les yeux et de contempler Jésus tel qu'il est, pas seulement un Seigneur, un Sauveur qui est mort pour les péchés, mais aussi qui est ressuscité, qui nous garantit qu'on a la victoire sur le monde, sur le péché, sur Satan, et qu'un jour il nous ramènera de la mort à la vie. Vous dites amen à ça ce matin. Les étapes, c'est les mêmes étapes pour nous aujourd'hui. Vous êtes dans la détresse ce matin, vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Jésus va s'approcher de vous à travers les Écritures. Il n'y a pas de formule magique. Et pourquoi on ne veut pas s'approcher des Écritures quand on est découragé? C'est un combat spirituel. Le diable, il veut pas qu'on jette nos yeux dans la parole parce qu'il sait que c'est la seule façon qu'on va être relevé. C'est la seule façon que nos yeux vont s'ouvrir, qu'on va voir dans quelle situation on est et comment Dieu, en Jésus-Christ, veut nous sortir de cette situation-là pour nous faire marcher comme on doit marcher. Ouais, ses disciples, c'était terminé, hein? Ils s'éloignent du lieu où a eu lieu la résurrection parce qu'ils connaissaient pas la fin de l'histoire. Ils voient Jésus, ils le rencontrent. Ils leur ouvrent les Écritures. Leurs yeux, les écailles tombent de leurs yeux sont ouverts. Ils resteront pas longtemps, Emmaüs. Le texte nous dit, ils sont retournés. Ils sont retournés vers les disciples. Pour leur annoncer, écoutez, Jésus est réellement ressuscité. Pas Jésus est ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Et si pour vous ce matin, dans votre cœur, votre foi se limite uniquement au niveau de la résurrection à dire que Jésus est ressuscité, vous allez avoir le cœur rempli de doutes. Le Seigneur veut nous amener à travers les Écritures à nous convaincre que Jésus est réellement ressuscité. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte biblique qui l'a dit. Ce sont les paroles que j'utilise qui sortent de la bouche des deux disciples d'Emmaüs ce matin. Il y a deux choses que le Seigneur nous a ouvert lorsque nous étions confus et découragés. Premièrement, il nous a ouvert les Écritures. Et deuxièmement, il nous a ouvert les yeux. Les deux sont nécessaires. Tout comme la lumière ne sert à rien à un aveugle, si vous avez deux yeux pour voir et que vous êtes dans les ténèbres totales, cela ne vous sert absolument rien de voir. Nous avons besoin des deux. Pourquoi Dieu a-t-il empêché les deux disciples de reconnaître Jésus? Il est évident que dans son corps glorifié, il y avait quelque chose qui avait changé chez Jésus. Ce sont deux disciples, ils avaient donc suivi Jésus dans le passé. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi est-il écrit au verset 16 que Dieu les empêchait de le reconnaître? Cela ne veut pas nécessairement dire que Jésus avait changé de forme, mais plutôt que quelque chose leur était arrivé. Dieu ne leur a pas permis de le reconnaître, il avait déformé leur vision et il ne leur avait pas donné la connaissance. Pourquoi Dieu a-t-il ainsi agi ainsi? Ça, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi n'a-t-il pas dit, regardez, c'est moi, croyez en moi, pourquoi? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une très bonne question. Jésus est maintenant prêt à monter au ciel, et ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est la même chose qu'il veut faire bien avec vous et moi, et c'est la même chose que nous avons besoin qu'il fasse dans nos propres vies. Ce qu'il fait maintenant, c'est ce qu'il veut les amener à dépendre dorénavant, non pas de sa personne physique, mais de la parole de Dieu. Il va les quitter. Et si c'est uniquement le Jésus physique qui compte pour eux, ils vont être dans la déprime, mais jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont être dans le doute jusqu'à la fin de leur jour. Il doit les amener à réaliser, écoutez, c'est pas sur moi, physiquement, que vous devez maintenant compter. Je suis le Christ crucifié et glorifié. Vous devez retourner aux Écritures. Elles parlent de moi de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce sont les Écritures qui vont vous permettre non seulement d'ouvrir les yeux, mais de garder les yeux ouverts. Parce qu'il y a un message dans le monde qui est tout à fait contraire à celui que moi je vous ai transmis. Le message à l'extérieur du monde est là pour vous détourner du véritable message qui nous donne une espérance extraordinaire. Il leur ouvre la Bible, il ouvre les livres des prophètes, et cela les amène à ouvrir leurs yeux pour qu'ils le voient maintenant, non pas dans la chair, mais qu'ils le voient à travers le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi il a fait cela? Et c'est aussi ce que nous avons besoin. Nous voyons maintenant la transition qui se prépare ici. Il s'apprête à retourner auprès du Père. Dans le ciel, il nous laisse sa parole. Et la parole écrite est ce que nous possédons pour que Jésus s'approche de nous et qu'il devienne une réalité pour nous et en nous. Il est important de réaliser que ce n'est pas l'aspect physique de Jésus sur lequel il devait s'appuyer, mais que c'était surtout sur sa parole. Bien sûr qu'ils auraient pu dire, oui, nous l'avons reconnu, c'était vraiment Jésus, mais ce n'est pas ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, nous l'avons reconnu, et encore une fois, je vous réfère au texte biblique, nous l'avons reconnu parce qu'il nous a ouvert la parole. Voilà comment ils l'ont reconnu. Ils le connaissaient maintenant à travers la parole de Dieu, et c'est par la parole qui les a ramenés à lui. Et frères et sœurs, il est dans de même avec nous. C'est la méditation de la parole qui nous amène à Jésus et qui nous ramène à lui. Vous dites amen à ça? Frères et sœurs, je vais vous faire une confidence qui vient du plus profond de mon cœur ce matin. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu durant la semaine, vous ne la méditez pas, que vous vous contentez d'entendre la parole le dimanche matin, votre système de foi est construit sur le sable. Nous avons vu un film le mercredi à l'étude biblique, un film qui fait peur. Des dizaines de milliers d'évangéliques qui sont retournés au catholicisme simplement à partir d'un message du pape, un court message, tronqué, manipulé. Et là, on ne parle pas de membres des églises. On parle dans une conférence internationale de pasteurs évangéliques qui ont loué le pape, qui ont loué le Seigneur pour le message du pape et qui ont loué et dire on retourne au catholicisme. Frères et sœurs, je n'ai pas à juger ces pasteurs-là, ils viennent d'un milieu qui n'est pas le nôtre. Frères et sœurs, si vous vous contentez uniquement de recevoir le message que Dieu a préparé pour vous le dimanche matin, votre fondation, votre foi, elle est construite sur le sable. Et quand arrivera une tempête, cette tempête qui va déferler un jour ou l'autre sur le monde, cette puissance d'égarement, vous ne résisterez pas à la tempête, vous allez vous faire séduire. Et je tiens à vous rappeler de lire 1 Thessaloniciens. Dans les derniers temps, ce n'est pas le diable qui va envoyer cette puissance d'égarement, c'est Dieu. C'est Dieu qui va envoyer la puissance d'égarement. Écoutez, on est dans la grâce, on baigne dans la grâce. Les gens rejettent le message. Les gens préfèrent vivre dans le péché que se détourner du péché pour se tourner vers Jésus-Christ. Mais la parole, elle est claire. Dans les derniers temps, Dieu enverra une puissance d'égarement. Les gens voudront se convertir, ils ne le pourront pas. Et ceux dont la fondation est construite sur le sable vont aussi tomber, s'écrouler. Pourquoi? Parce que leurs yeux continuent à être fermés, parce que nos yeux sont ouverts à partir de la parole, ce qu'on lit dans la parole. Quelle différence y a-t-il entre venir entendre un message le dimanche matin et lire la parole à la maison jour après jour? C'est que quand vous lisez la parole à la maison jour après jour, la révélation, Dieu vous la donne directement. Vous ne l'oublierez jamais. Le dimanche matin, vous recevez une révélation que moi j'ai reçue. Vous allez retenir en partant ici 10% de ce qui a été dit. Et dans deux semaines, si je vous demande de me citer une seule phrase que j'aurais dite ici, il y en a peut-être la moitié qui s'en souviendront pas. Et si je vous demande dans six mois qu'est-ce que j'ai prêché, vous ne souviendrez même pas du texte que j'ai prêché. Et je vous donnerai des références. Qu'est-ce que j'ai prêché le premier dimanche après Pâques? On est comme ça. La révélation, c'est moi qui l'ai reçue, je vous distribue ce que j'ai reçu du Seigneur. Mais quand vous prenez le temps le matin ou le soir, dépendant comment vous êtes disposé, à lire les Écritures, à la méditer, Dieu vous parle, Dieu ouvre votre cœur, Dieu ouvre votre esprit, Dieu ouvre vos yeux. Et lorsqu'il vous ouvre, personnellement, dans cette intimité, vous méditez les Écritures, vous avez pris un rendez-vous avec Dieu. Cette parole, elle va rester. Cette parole, elle va rester. Vous avez l'impression que ça rentre ici, que ça sort là. Quand vous vivrez une épreuve, vous allez voir que votre foi, elle est construite sur le roc. Ce que vous aurez médité, Dieu est fidèle, Dieu honore celui qui l'honore, et cette parole, elle va refaire surface. Mais si ce n'est pas votre cas ce matin, vous êtes comme les deux disciples. C'est la parole qui nous rappelle constamment la fin de l'histoire. Si vous ne méditez pas les Écritures, vous finissez par oublier la fin de l'histoire. Vous finissez par oublier que Jésus revient bientôt. Vous finissez par oublier quelle est votre espérance vivante. Et vous finissez par commencer à vivre comme le monde vit. Jésus leur a ouvert les Écritures pour être capable de leur ouvrir les yeux, qu'ils puissent le voir tel quel. Jésus, Dieu les a empêchés de voir Jésus tel qu'il était, parce qu'il voulait que dorénavant, les disciples et tous ceux qui le suivraient ne gardent pas leurs yeux fixés sur le Jésus physique, sur le Jésus historique, mais sur le Jésus crucifié et ressuscité. Et voilà ce que Paul dit qu'il a prêché dans 1 Corinthiens. Lorsque j'étais au milieu de vous, je n'ai fait que prêcher Christ crucifié. Et ça signifie aussi, ça sous-entend aussi ressuscité. Amen. Remarquez comment il va le faire et quelle sorte de sermon il va leur prêcher. Comme méthode, il va utiliser les Écritures. Il va ouvrir les Écritures pour leur ouvrir les yeux. Regardez au verset 24 sur quoi il va prêcher. Il a commencé par les écrits de Moïse. Puis il va continuer avec les prophètes pour leur expliquer à travers toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ce que le texte nous dit ici. C'est exactement ce qu'il devait faire puisque c'était des Juifs. Rappelez-vous le message d'Étienne. Rappelez-vous le premier message de Pierre. Il s'adresse à des Juifs. Eh bien, il part du début puis il monte. Il a commencé par le livre de la Genèse, qui est un des cinq livres écrits par Moïse. Il va poursuivre ensuite avec les prophètes pour parcourir tout l'Ancien Testament et leur enseigner ou leur rappeler les passages qui parlent de lui. Examinez encore une fois le verset. Il n'est pas écrit, et ça c'est important, il n'est pas écrit qu'il leur expliqua tout ce qui le concernait dans les Écritures. S'arrêtez bien. Il est écrit qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La différence, elle est énorme. Ça veut dire quoi? C'est que dans chaque livre des Écritures bibliques, Jésus est présent. C'est pas que je lis un livre et je le vois pas. Eh bien, celui-là, je le lirai pas. Jésus est présent dans toutes les Écritures. Et il faut se rappeler que Jésus se limite à l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'est pas écrit à ce moment-là. Alors, il va donc commencer par le livre de la Genèse. Ensuite, il va poursuivre les cinq livres, l'Exode, Lévitique, les Nombres, Deutéronome. Ensuite, il va faire tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et il va leur parler de lui à travers les Écritures. Et quels sont les passages qu'il va leur montrer? Bien, les passages qui parlaient de lui, bien sûr. Avez-vous lu la Bible, frères et sœurs? Si vous ne trouvez pas Jésus, c'est que vous l'avez manqué. On peut commencer. Il est là quelque part dans l'ombre, certains passages, et vous le trouverez. Vous le verrez dans les prophéties. Vous le verrez dans les livres historiques. Vous le verrez dans les paraboles. Vous le verrez dans les psaumes. Vous le verrez dans les proverbes. Vous le verrez d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est dans les tout, parce qu'il est présent dans tous les livres de la Bible. Jésus a même mis les gens de son époque au défi. Lorsqu'il leur a dit, en faisant référence aux Écritures, Jean chapitre 5, verset 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Hey, vous lisez, il est en train de parler par n'importe qui, là. Il leur dit, à partir du livre de la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, vous avez lu les Écritures et vous n'avez pas encore réalisé que dans les Écritures, je suis présent partout. Et lorsqu'ils voudront le piéger avec la femme qui aura eu son mari, elle sera décédée, qu'elle va marier le frère de son mari, puis elle va marier toute la famille, finalement, tous les frères, parce que tous seront décédés un par un. Les pharisiens, pour le piéger, vont dire, écoute, de qui sera-t-elle la femme dans le royaume de Dieu à venir? Et la réponse de Jésus, là, elle est estomacante. Vous parlez ainsi parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Écritures, frères et sœurs, nous rappellent la puissance de Dieu qui est à notre disposition pour nous permettre de résister à toutes les tentations que ce monde nous offre pour qu'on puisse représenter fidèlement la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de joie durable sans Jésus. Il est celui dont vous avez besoin, dont j'ai besoin, et Dieu sait que vous ne pouvez pas être joyeux en dehors de Jésus-Christ. Ceux qui vivent pour le bien matériel à l'extérieur, ceux qui vivent pour s'accaparer des biens, ils en auront jamais assez. Il y a des gens qui ont des télévisions, t'as l'impression de rentrer dans une salle de cinéma tellement que l'écran est rendu grand. Eh bien, quand ils en sortiront une plus grande, ils vont aller chercher la plus grande. Il y a des gens qui ont des voitures incroyables, mais quand il y a un nouveau modèle qui sort avec un gadget de plus, eh bien, il faut qu'ils aient la voiture avec le dernier gadget de plus. C'est ça le matérialisme. Et dans ce monde, on a créé des besoins dans le cœur des gens qui sont sans Jésus-Christ. Et ce besoin, il est insatiable. Ils sont incapables de répondre à ces besoins-là. Voilà pourquoi les gens veulent toujours plus. Voilà pourquoi les gens veulent toujours aller plus loin. Et le Seigneur, il sait très bien qu'on ne peut pas être joyeux si Jésus n'est pas dans notre vie. et pourtant vous ne pouvez pas connaître pleinement Jésus en dehors des Écritures. Beaucoup trop de gens lisent la Bible pour passer le temps et non pas pour découvrir vraiment ce que Dieu veut leur dire. Ils ne s'attendent pas à recevoir quoi que ce soit des Écritures et en fait, ils ne reçoivent rien. Jésus marche maintenant avec eux en direction du village d'Emmaüs qui se trouve à environ 12 kilomètres de Jérusalem. Imaginez entendre Jésus prêcher sur une distance de 12 kilomètres, plus ou moins 2-3 heures de marche, en pensant qu'ils ont fait une pause, plus ou moins 2-3 heures de marche. Entendre Jésus prêcher sur une distance de 12 kilomètres, à partant du livre de la Genèse et faire un survol de tout l'Ancien Testament. Quel privilège! Regardez ici, ce passage parle du Messie. Hein? Regardez. Hey, ce passage, il parle du Messie. Regardez celui-là dans tel livre. Ce passage, il parle de Jésus. Regardez dans tel autre livre. Ce passage, il parle de moi. Il parle encore de moi. Il était en train de leur ouvrir les yeux à partir des Écritures. À ce moment-là, les disciples ne réalisent pas encore qui les accompagne, mais il est en train de leur parler de lui. Et toutes les Écritures parlent du Seigneur Jésus-Christ. Voici une prophétie qui s'accomplit devant leurs yeux. Devant nos yeux, pardon. Moi, c'est pas ce que je voulais dire, finalement. Il y a 333 prophéties qui donnent des détails précis de Jésus dans l'Ancien Testament. 333. Plusieurs siècles avant même que Jésus naisse, la Bible avait prédit sa naissance, son ministère, son enseignement, ses souffrances, sa résurrection, sa gloire, son ascension et sa seconde venue. Toutes ces choses avaient été prophétisées avant même qu'il naisse. Vous savez pourquoi c'est important, les prophéties? Parce que si quelqu'un est capable de prédire l'avenir, prédire ce qui va arriver des siècles avant, ça veut dire que celui qui prédit ça voyage dans le temps. Il est avant et il est après. Pour être capable de dire ce qui va arriver après, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans après, il faut qu'il soit déjà en avant de son temps. Et c'est ça Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Cette parole, c'est pas une parole d'homme, c'est une parole que Dieu révèle à sa créature. Voici ce qui s'est passé dans le passé, voici le présent, voici l'avenir et voici maintenant l'éternité. Et le texte biblique nous annonce, il y a 333 prophéties. Jésus est la seule personne à voir le jour dans ce monde dont les ancêtres, le moment de sa naissance, les signes avant-coureurs de sa naissance, la façon qu'il naîtrait, l'endroit qu'il naîtrait, son enfance, son humanité, son enseignement, son caractère, sa prédication, son rejet, sa mort. Son ensevelissement, sa résurrection, son ascension avaient été révélés d'une façon claire avant même qu'il naisse. Ma mère, elle n'aurait jamais pu prédire une seule fois dans sa vie, en me voyant 6 mois, que je ferais telle bêtise. Parce que ma mère n'est pas Dieu. Et mon caractère n'était pas encore manifesté à 6 mois. Je n'avais pas commencé à mordre personne, je n'avais pas de dents. Mais quand vous regardez tout ce qui est prédit dans les Écritures, avant que Jésus naisse, c'est incroyable. Ne perdez pas de vue les prophéties, frères et sœurs. Pouvez-vous penser ou imaginer quelqu'un en train de peindre le portrait d'un individu qu'il n'a jamais vu, qui n'est pas encore né, et qui peint cet homme avec une telle précision que les détails qui apparaissent sur la toile, eh bien, sont à couper le souffle. Pouvez-vous maintenant, écoutez, la Bible ne se limite pas à un, pouvez-vous maintenant imaginer non pas une personne, mais 25 artistes travaillant sur le même tableau? Et lorsque le tableau est terminé, que vous voyez le personnage qui apparaît, la ressemblance est tout à fait parfaite avec Jésus-Christ. Peter Stoller est un mathématicien et un statisticien qui a écrit un livre qui s'intitule « La science parle », en anglais « The Science Speaks ». Dans ce livre, il traite de la loi des probabilités. Nous sommes en train de parler maintenant de tout ce qui concerne Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Peter Stoller, en tant que mathématicien, travaille sur ce que la science, qui est une loi décrivant le pourcentage de chances qu'un phénomène puisse être le fruit du hasard. Il a pris non pas 333 prophéties bibliques, il s'est contenté d'en prendre 8, 8 seulement, pour démontrer la probabilité mathématique que ces 8 prophéties qui concernent Jésus puissent s'accomplir par hasard. Voici quelle est la possibilité que ces prophéties puissent être survenues par hasard. Une chance, non pas sur 2, non pas sur 100, non pas sur 1000, non pas sur 1 million, non pas sur 1 milliard. Une chance sur 10 à la puissance 17. Je mets au défi quelqu'un que moi j'y colle sur le mur ici 10, que je colle 17 zéros à côté, qui puisse être capable de me citer ce chiffre. Ça, c'est la possibilité que ce ne soit pas Jésus, le véritable Messie. Une chance sur 10 à la puissance 17, soit le chiffre 10 avec 17 zéros à côté. Pour mieux nous faire comprendre son raisonnement, Peter Stoller prend l'exemple suivant. Dans un premier temps, il dit, vous prenez l'État du Texas, qui correspond à 20 fois la superficie de la Belgique. Vous déposez des pièces de monnaie d'un euro sur toute la surface du Texas à la hauteur de, bon, moi je suis encore en pied et en pouce, mais 61 centimètres. C'est à peu près ça, non? 61 centimètres. Et parmi toutes ces pièces de monnaie, il y en a une seule que vous avez pris un crayon à l'encre indélébile et que vous avez fait un X sur cette pièce. Ensuite, vous faites monter un aveugle dans un hélicoptère et vous lui demandez qu'il vous conduise dans un endroit, l'endroit où il veut que vous le déposiez au Texas, pour qu'il puisse tenter de récupérer à travers toutes ces pièces de monnaie de 1 euro à 61 centimètres de haut sur toute la surface du Texas, qu'il puisse retrouver la pièce de monnaie sur laquelle vous avez fait un X. Ses chances de retrouver cette pièce sont d'une chance sur 1 fois 10 avec 17 zéros à côté. Voici la sorte de probabilité que nous sommes en train de parler ici sur seulement 8 de ces prophéties qui ont été accomplies dans l'Ancien Testament, démontrant que Jésus est bien le Messie premier depuis le livre de la Genèse. Pas 333 prophéties, mais seulement 8. La loi de probabilité fait en sorte qu'il soit impossible que ces prophéties qui se sont accomplies concernant le Seigneur soient arrivées par hasard. Voici un autre exemple. Il y a à peu près 7 milliards de personnes sur la Terre et tous n'ont pas le téléphone. Mais supposons que tout le monde ait un téléphone sur la Terre et que je voudrais contacter un de mes amis qui s'appelle Martin Anger, qui est pasteur missionnaire maintenant au Venezuela, et que je n'ai pas son numéro de téléphone. Non seulement je n'ai pas son numéro de téléphone, mais je ne connais pas l'indicatif téléphonique du pays et ni l'indicatif régional où il habite. Supposons maintenant que je prends le téléphone et que je commence à composer différents numéros au hasard. À combien évaluez-vous mes chances de pouvoir atteindre mon ami en sachant qu'il y a un peu plus de 7 milliards d'êtres humains sur la surface de la Terre et en tenant compte du nombre incroyable de numéros que je peux faire sur un téléphone avant de pouvoir atteindre mon ami? À combien évaluez-vous la possibilité que je puisse tomber sur le bon numéro de téléphone? 1 fois sur 10 à la puissance 17. Permettez-moi de vous dire comment nous allons retrouver Jésus. Si vous commencez par exemple dans le livre de la Genèse, il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il sera de la descendance de la femme. Déjà, nous savons là que le Messie ne sera pas un ange quelconque, que ce ne sera pas non plus un être bizarre qui vient d'une autre planète. Nous venons de découvrir que Jésus appartient à une certaine race, puisque la parole le dit, Genèse chapitre 3, verset 15. Nous venons donc de trouver le premier bon numéro pour trouver Jésus. Nous arrivons ensuite au chapitre 9 de la Genèse. Cette fois, les Écritures nous parlent que le Messie sortira non pas d'un peuple quelconque de la terre, mais d'un des trois fils de Noé, et ce fils, il s'appelle Sem. Nous venons de trouver le deuxième numéro pour trouver le Messie. Il fera partie de la race humaine et il appartiendra à un peuple. Il faut maintenant trouver le troisième numéro, frères et sœurs. Il doit se trouver parmi une nation qui fera partie de ce peuple. Nous lisons dans Genèse chapitre 12 que le Messie sera un descendant d'Abraham. Nous découvrons ensuite qu'Abraham aura un certain nombre de descendants et qu'à travers eux, il y aura une tribu où le Messie sortira et ce sera la tribu de Juda. Nous venons de trouver le troisième numéro pour découvrir qui est Jésus et certifier qu'il est bien le Messie annoncé dans les Écritures. Mais nous n'avons pas tous les numéros en main. Nous devons composer un autre numéro parce qu'il appartiendra à une famille de cette tribu. Le prophète Isaïe nous apprend qu'il sortira de la tribu, il sortira de la tribu de la maison de Jessé. Isaïe chapitre 11, verset 1. Nous venons de trouver le quatrième numéro pour découvrir qui est vraiment Jésus, qui est vraiment le Messie. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous devons composer un autre numéro. Parmi les descendants de Jessé, une femme en particulier doit le mettre au monde. Au chapitre 7, du verset 14, le prophète Isaïe nous dit qu'elle sera vierge. Ainsi, vous avez une vierge qui appartient à la famille de Jessé, qui appartient à cette tribu, qui appartient à ce peuple et qui appartient à cette race. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Non seulement elle doit être vierge, mais elle doit aussi accoucher à Bethléem. Et ce n'est pas à n'importe quel moment, mais à une période donnée que le prophète Daniel a révélée au chapitre 9 de son livre. Si vous continuez à ajouter ce numéro aux autres, que vous preniez votre téléphone, à la fin, vous découvrez qu'il est impossible que ce soit quelqu'un d'autre que la personne de Jésus-Christ. Jésus est le Messie promis par les Écritures. Lorsque Jésus a ouvert les Écritures et qu'il a commencé à leur montrer toutes les choses concernant dans les Écritures, leurs yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, il est encore prêt à nous ouvrir à les Écritures pour que nos yeux puissent continuer à rester ouverts et apprendre à mieux connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Permettez-moi rapidement de vous dire, avant de passer au dernier point, les prophéties concernant le retour de Jésus-Christ vont s'accomplir littéralement comme ce fut le cas pour les prophéties qui annoncent sa première venue. Beaucoup de gens disent que les premières prophéties avant sa naissance se sont accomplies littéralement et que concernant sa venue, ce sera spirituellement ou de façon métaphorique. Mais les règles herméneutiques nous disent que si c'était le cas, c'était littéral les prophéties ou dans la première partie, ce sera aussi littéral en ce qui concerne son retour. Remarquez ce qui est arrivé à ses deux disciples lorsqu'ils furent près du verset 28 et 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent de rester. Savez-vous que nous pouvons tous recevoir tout ce que nous voulons de Dieu? Vous êtes amen à ça? Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne sommes pas intéressés à recevoir de lui. Jésus l'a répété tellement de fois, « Demandez et vous recevrez. » On donne à celui qui demande. Il peut nous arriver de penser que le Seigneur semble vouloir s'éloigner de nous. Rappelez-vous lorsque Jacob a lutté avec l'ange. L'ange lui a dit, « Laisse-moi aller. » Quel effort cela a dû demander à Jacob d'être capable, au niveau physique, d'être capable de lutter avec cet ange pendant toute une nuit. L'ange voulait réellement partir puisque le combat était terminé. L'ange lui dit, « Laisse-moi partir. » Et Jacob va lui dire, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Frères et sœurs, quelle leçon pour nous. On prie devant le trône de la grâce pour que nos enfants se convertissent. On prie devant le trône de la grâce pour que Dieu change nos cœurs. On prie pour que Dieu, devant le trône de la grâce pour que Dieu modifie nos pensées. Notre réponse devrait être celle de Jacob. « Seigneur, je n'arrêterai pas d'intercéder pour tel sujet » tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. La bénédiction, c'est tant et aussi longtemps que je n'ai pas reçu de toi, Seigneur, ce que je t'ai demandé. Et pourquoi Dieu ne refusera pas? Parce que la demande de ma prière, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Quel encouragement pour l'Église de Jésus-Christ de dire, j'ai prié pendant 10 ans pour mon enfant pour qu'il se convertisse, et que j'arrive un matin devant vous et je vous dise, Dieu a touché son cœur, il s'est converti, il a donné sa vie. Combien c'est encourageant et fortifiant pour le peuple de Dieu lorsqu'un membre de l'Église se lève durant un moment de louange qui rend grâce à Dieu pour telle bénédiction qu'il a reçue. Demandez, vous recevrez. On est gêné de demander. On est gêné de persévérer dans nos demandes. Et là, je vous ramène à la prière d'Abraham, Genèse chapitre 18. On est gêné. On a l'impression des fois de déranger Dieu. Il peut nous arriver de penser que le Seigneur ne s'intéresse pas à nous. Rappelez-vous la femme syrophénicienne qui pria Jésus de chasser le démon de sa fille. Dans Matthieu 15, 24, 28, Jésus dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui, nous dit le texte biblique, disant, « Seigneur, secours-moi! » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Pouvez-vous imaginer Jésus parler à quelqu'un qui est désespéré de cette façon-là? Le mot « chien » dans le langage biblique, il n'est pas bon de prendre la nourriture des élus et de les donner à des bâtards. Elle aurait pu retourner, ça n'a pas de sens, lui. Ça n'a pas de sens ce qu'il vient de dire. Et il voulait tester ça. Regardez la suite. Elle va lui dire, « Oui, Seigneur. » Oui, Seigneur, mais le petit chien mange aussi les miettes qui tombent de la table des petits-enfants. Alors Jésus lui dit, femme, ô combien ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, le texte biblique nous dit, sa fille fut guérie. Hey, il la compare à des chiens. Ouais. Elle vient pas pour des besoins personnels. Elle a une compassion, cette femme-là. Sa fille est malade. Elle vient intercéder pour sa fille. Et à travers une païenne, Dieu va se glorifier en Jésus-Christ. Il va dire, Oh, chère femme, que ta foi est grande. Frères et sœurs, c'était pas encore un enfant de Dieu. Dieu va répondre en Jésus-Christ à sa prière. À combien plus forte raison, nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons accès au trône de la grâce de Dieu. Dieu veut s'empresser de répondre à nos prières. La seule chose pour laquelle Dieu ne répondra pas à nos prières, c'est s'il y a du péché dans nos vies. Et la deuxième, c'est si ça ne le glorifie pas. Il y a une chose que Dieu n'aura jamais compassion. Jamais, jamais compassion. C'est le péché. Allez lui expliquer qu'il y a compassion pour le péché avec le prix que ça lui a coûté. On peut pleurer des larmes devant le trône de la grâce de Dieu. On est confessé nos péchés, mais si on n'a pas le goût de s'en détourner, on va s'attendre à avoir la bénédiction. La bénédiction, c'est une loi éternelle de la sainteté de Dieu. La bénédiction vient toujours avec l'obéissance. Toujours. Mais Dieu n'aura jamais compassion du péché. S'il nous est arrivé à plusieurs reprises, et je termine, dans le passé, d'avoir eu l'impression que le Seigneur ne s'intéressait pas à nous, ou à ce que nous faisons, c'est parce qu'il veut que nous persévérions afin de recevoir tout de lui, tout ce que nous voulons. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, dit Jésus dans Matthieu chapitre 5. Car Dieu leur accordera pleinement. Seigneur, je suis en prière. Seigneur, tu vois les difficultés, tu vois les combats dans ma vie, tu vois les tentations, Seigneur. Tu vois que mes yeux devraient aller par là, ils s'en vont par là, Seigneur. Promesse du Seigneur. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Il faut que ce qui sorte de ma bouche quand je prie Seigneur, eh bien, ça soit identique avec ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Au verset 29, les deux disciples lui demandent avec insistance de rester avec eux, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Ils étaient heureux qu'il leur fasse, il était heureux qu'il leur fasse cette demande. Et il entre dans ce lieu avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prend le pain, il prononce la prière de bénédiction. Il leur donna, dit le texte. Je suis convaincu que les disciples avaient déjà vu Jésus faire ce geste auparavant, puisqu'ils le suivaient avant sa mort. Versets 30 et 31. Pas moi qui va le dire, c'est les Écritures qui le disent. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais disparut devant eux. Frères et sœurs, il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. Vous pouvez vivre la vie chrétienne avec le souvenir que Jésus est mort pour vos péchés. Vous n'aurez jamais, jamais la victoire dans votre vie. Leurs yeux se sont ouverts quand ils ont cru réellement que Jésus était ressuscité. Ça touche le pardon de nos péchés. La résurrection, elle confirme la vie éternelle. Elle confirme que Dieu en Jésus-Christ a accepté son sacrifice. Et Paul nous dit qu'on est entraîné dans ce cortège de victoire que Jésus remporta à la croix. On est là-dedans. Ce que Jésus a été capable de vaincre, il nous a donné la puissance, par son Saint-Esprit, à remporter les mêmes victoires que lui. Si on s'arrête uniquement au Jésus crucifié, on est toujours en train de se battre avec le péché. Mais si on pense au Jésus-Christ ressuscité, Seigneur, non seulement tu es mort pour ce péché, tu es revenu de la mort à la vie, et Seigneur, j'ai la victoire. Qu'est-ce qui me dit que Christ a remporté la victoire sur le péché? C'est sa résurrection. Je l'ai déjà dit, si on prêchait uniquement Jésus-Christ crucifié, je vous dirais, continue de baigner dans vos péchés, vous n'avez pas d'espérance. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. Si Christ est mort, puis que pour certains, il n'est pas ressuscité, ben mangeons et buvons, quoi. Parce qu'on n'a aucune espérance. Ça me donne quoi de savoir que mes péchés sont pardonnés s'il n'y a rien après la mort? Ça ne donne rien, hein? Je suis comme le pire des athées, hein? Mais il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Gloire à Dieu pour ça. La conclusion à laquelle j'aimerais que vous en arriviez ce matin, c'est pas que Christ est ressuscité, mais c'est que Christ est réellement ressuscité. Christ est ressuscité? Amen. Et bien, immédiatement après, ils ont retourné à Jérusalem avec cette bonne nouvelle. Et je m'imagine comment ils étaient blindés, ils étaient boostés, hein? Comment ils étaient boostés? Hey, ils retournent, ils vont voir les disciples. Et je pense, frères et sœurs, qu'on a besoin d'avoir nos yeux dans les Écritures pour que Dieu ouvre davantage nos yeux concernant la personne de Jésus-Christ. Nos cœurs ont besoin de brûler Parce que nous avons besoin d'une foi qui soit vivante, efficace, et non pas pour le Seigneur, et non pas d'un enseignement qui soit mort et vain. Un enseignement qui ne donne pas la vie. Parce que Jésus est réellement crucifié et ressuscité. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Seigneur, pénètre dans nos cœurs ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, ce matin.